6h sur France Inter. Et bonsoir Claire Servageon.
Bonsoir Charline, bon week-end à vous et à lundi. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France avec Jules, auteur et dessinateur de BD à quelques jours du Festival d'Angoulême. À 19h20, au téléphone sonne, question sur les inégalités d'accès aux services publics. Comment rééquilibrer l'offre de services publics dans les territoires? Dans quelle mesure le numérique peut-il être un recours? Appelez-nous dès maintenant pour en parler au 01 45 24 7000. Mais d'abord le journal de 18h. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. La justice passera, même si les terroristes sont morts. 14 personnes sont renvoyées devant une cour d'assises pour les attentats de Charlie et de l'hypercachère en janvier 2015. Emmanuel Macron de retour devant plusieurs centaines de maires à Souillac, cette fois dans le Lot, des élus qui dénoncent la fracture territoriale et le sentiment d'abandon. Le grand débat calmera-t-il la colère des gilets jaunes? Les irréductibles donnent rendez-vous pour le 10e samedi d'affilée de manifestation. Airbnb se targue d'avoir payé 24 millions d'euros de taxes de séjour l'an dernier, quand une entreprise se fait de la pub sur les impôts qu'elle finit par payer. Et le coup de cœur du service culture du vendredi, c'est un roman policier du cubain Leonardo Padura, invité d'honneur du festival Le Goût des Autres au Havre ce week-end. De la neige possible sur le Limousin et en Normandie demain. Météo complète à la fin de ce journal.
Il y aura bien un procès des attentats de Charlie et de l'hypercachère.
La justice antiterroriste vient d'ordonner le renvoi devant les assises de 14 suspects, tous soupçonnés à des degrés divers d'avoir participé aux attaques contre la rédaction de Charlie le 7 janvier 2015, contre la policière à Montrouge et contre l'hypercachère. 17 morts et le traumatisme de tout un pays. Les frères Kouachi et Amédi Coulibaly, auteurs directs des fusillades, ont été tués à l'époque. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Amélie.
Ce sera donc un procès des seconds couteaux entre guillemets, utile quand même aux victimes?
Oui, utile avant tout pour établir ce qui s'est passé, avec la frustration bien sûr de ne pas pouvoir juger les auteurs principaux. Parmi les 14 accusés renvoyés aux assises, figure tout de même le principal lieutenant d'Amédi Coulibaly, Ali Riza Polat, 33 ans, ce franco-turc, est soupçonné d'avoir transporté des armes depuis la Belgique vers Paris, 6 mois avant les attentats. Selon les juges d'instruction, il avait un rôle transversal de logisticien, renvoyé pour complicité dans les deux attentats. Il sera dans le box. Autre accusé important, Mohamed Belloucine, âgé de 31 ans. Lui, c'est le messager et l'idéologue. Il aurait établi le contact crypté entre Coulibaly et son commanditaire et écrit le serment d'allégeance lu par le tueur de l'hypercachère. Mais Mohamed Belloucine est en fuite, parti quelques jours avant les attentats avec Hayat Boumediene, la compagne d'Amédi Coulibaly, en zone irako-syrienne. Il est sans doute mort là-bas. Alors, vous l'avez dit, reste 10 hommes accusés à des degrés divers d'avoir aidé Amédi Coulibaly et les frères Kouachi pour trouver de l'argent, des armes, des munitions, une voiture ayant servi aux attentats. Le procès devrait durer 3 mois devant la cour d'assises spéciale de Paris en 2020, composée de magistrats professionnels. 200 parties civiles sont constituées à ce jour.
Alors, Peter Sherif, arrêté le mois dernier au Yémen, proche des frères Kouachi, lui, il ne fait pas partie des 14 prévenus pour l'instant. L'enquête, en fait, se poursuit, Corinne?
Oui, sur ce volet, l'enquête se poursuit sur les contacts des frères Kouachi au Yémen. L'attentat de Charlie Hebdo, vous vous en souvenez, avait été revendiqué par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, l'ACPA. Peter Sherif, arrêté il y a un mois à Djibouti et depuis remis à la France, était un cadre de l'ACPA sous le nom de Abu Hamza. En 2011, il avait vu Sherif Kouachi au Yémen, une vieille connaissance du quartier des Buttes-Chaumont à Paris. Alors, Peter Sherif était-il le commanditaire des attentats? Eh bien, c'est le but de cette partie d'enquête. C'est le but recherché par les juges d'instruction.
Merci beaucoup, Corinne Audouin. Autre procès djihadiste, celui à Bruxelles en ce moment, de Mehdi Nemmouche, jugé pour la tuerie du musée juif en 2014 dans la capitale belge. Les images de vidéosurveillance de l'attaque ont été diffusées ce matin. Film muet, glaçant, où l'on voit le terroriste assassiner d'une balle de revolver un couple de touristes israéliens. Puis, il abat froidement un jeune employé et puis une bénévole avec une kalachnikov avant de prendre la fuite. Nemmouche se dit innocent et refuse de s'exprimer pour l'instant.
Ce n'est pas un tribunal, mais une assemblée d'écharpes tricolores qu'Emmanuel Macron affronte, si l'on peut dire, cet après-midi pour la deuxième fois de la semaine.
Comme dans l'heure il y a 3 jours, le président de la République fait face à 600 maires à Souillac dans le Lot. 600 maires venus de toute l'Occitanie pour faire part des doléances de leurs administrés et poser les jalons du grand débat national. L'édile de Saint-Chély-d'Aubrac, Christiane Marfin, a notamment voulu interpeller Emmanuel Macron sur les fermetures de classes.
Si nous devions perdre cette école, ça sera la fin de notre village. Les enfants devront être scolarisés à 20 km. Et puis c'est 20 km où on ne peut pas rouler à 80. C'est beaucoup moins de 80, surtout l'hiver. Comment, dans ces conditions, attirer des jeunes? Si on leur dit que dès 3 ans, leurs enfants devront faire une heure de bus, matin et soir. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous en supplie, acceptez un moratoire pour quelques années concernant les fermetures de classes en zone rurale. Laissez-nous le temps de nous retourner, simplement de nous retourner, de remonter la pente. Voilà, on y travaille tous les jours.
Christiane Marfin, la maire de Saint-Chély-d'Aubrac, dans l'Aveyron, des propos recueillis par Cyril Graziani à Souillac. Alors justement, ce matin, le chef de l'État s'est rendu dans une école, visite surprise, à Saint-Sauzis, à une quinzaine de kilomètres de Souillac. Discussion avec les parents, les élèves, signature d'autographe dans les cahiers et à la sortie des échanges avec les habitants. La présidence n'avait pas annoncé à l'avance ce déplacement pour éviter les manifestations et les débordements comme à Souillac, à la mi-journée. Des rassemblements qui dérapent, c'est le risque demain pour le 10e samedi de manifestation des Gilets jaunes. À Paris, un rendez-vous a été donné place des Invalides. À Marseille, ce sera sur le Vieux-Port. Rassemblement annoncé aussi à Toulouse, Saint-Étienne, Valence, Clermont-Ferrand ou encore à Bordeaux. Bordeaux où les commerçants craignent encore un samedi de soldes gâchés. Bordeaux où les violences ont fait des blessés parfois graves la semaine dernière, notamment à cause des balles de défense tirées par les forces de l'ordre sur les manifestants. Philippe Randet, bonsoir.
Bonsoir.
La capitale de Gironde craint une nouvelle poussée de fièvre demain.
Oui, et à chaque samedi, son nom, cette fois, les Gilets jaunes de Bordeaux ont choisi sur Facebook, je cite, Gilets jaunes au pouvoir. Comme tous les samedis, ils devraient se regrouper à la mi-journée place de la Bourse dans le centre-ville. Comme tous les samedis, ils n'ont pas déclaré la manifestation. Mais comme tous les samedis, ils devraient se retrouver en fin de journée place Péberlan, près de l'hôtel de ville où des violences les ont opposés la semaine dernière aux forces de l'ordre. La semaine dernière où ils étaient près de 6000 dans les rues de la capitale girondine. C'est la plus grosse mobilisation depuis le mois de novembre. Certains n'hésitent pas à clamer d'ailleurs que la préfecture de la Gironde est devenue la capitale des Gilets jaunes. Demain, un autre rassemblement, un deuxième groupe appelle en plus à une action surprise. Une semaine après les incidents de la semaine dernière où un pompier volontaire a été grièvement blessé, il est sorti hier du coma, les commerçants, eux, craignent de nouveaux dégâts. Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Gironde, depuis le début du mouvement, dans le centre-ville de Bordeaux, le chiffre d'affaires des commerçants a baissé de 20 à 50%.
Merci Philippe Randet. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui s'est dit sidéré par les accusations de violence policière. Il présentait ses vœux aux forces de sécurité cet après-midi près de Nancy.
18h08 sur France Inter, la suite du journal d'Amélie Perrier. On passe à l'actualité internationale, Amélie, avec l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui reste en prison jusqu'au 1er février.
Oui, acquitté, mais toujours derrière les barreaux. L'accusation a fait appel de l'acquittement donc de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé pour crimes contre l'humanité. Leur détention est maintenue jusqu'à l'examen de l'appel le 1er février. Rien n'est encore gagné en République démocratique du Congo pour le vainqueur officiel de la présidentielle, Félix Tshisekedi, soupçonné d'être le pion du président sortant Joseph Kabila, et contesté par l'opposant Martin Fayoulou. L'Union africaine, dans une décision sans précédent, met à son tour en cause le résultat. Elle demande la suspension de la publication de ces résultats. La Cour constitutionnelle étudie toujours les recours du candidat malheureux. Et Martin Fayoulou, avec ses partisans, commence à croire en un basculement en leur faveur. Reportage de notre correspondant dans l'Est de la RDC, Anthony Fouchard.
Joseph Kabila joue aux échecs et il a pour l'instant plusieurs coups d'avance. Accepter de quitter le pouvoir, c'est comme sacrifier un pion pour mieux protéger son jeu. Mais en remportant plus de 350 sièges à l'Assemblée, son parti va continuer à diriger le pays. C'est du moins ce que pense Samuel Kassere Kassambouka, un habitant de Goma.
Comme la Constitution lui accorde la chance d'être sénateur en vie, il peut être président du Sénat avec toutes les possibilités de briguer encore la présidentielle.
Mais contre toute attente, l'Union africaine s'est invitée dans la partie et a remis publiquement en question la conformité des résultats proclamés par la commission électorale. Une lueur d'espoir pour Adoumala, fidèle partisan de Martin Fayoulou, qui serait le véritable gagnant de cette élection.
Monsieur Kabila s'est montré de plus en plus orgueilleux envers les Européens. Mais cette fois-là, ce sont ses frères africains. Les Africains doivent arriver au Congo pour le faire comprendre qu'il est temps de libérer l'espace politique congolais.
Plusieurs chefs d'État de la sous-région seront à Kinshasa ce lundi pour discuter avec le régime congolais et sortir de ce que l'Union africaine appelle déjà une crise post-électorale. À Goma, Anthony Fouchard, France Inter.
Un retour en France où Airbnb se targue de payer ses taxes aux communes.
La plateforme de location entre particuliers annonce avoir reversé 24 millions d'euros de taxes de séjour aux villes de France sur les locations de l'an passé. Rien qu'à Paris, 7,5 millions d'euros ont été payés par Airbnb à la ville. Alors l'entreprise se félicite d'avoir doublé cette collecte désormais automatisée. Philippe Lefebvre, notre spécialiste du tourisme. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en studio. Alors on a donc ici un groupe qui se vante de payer ses impôts, qui en fait même sa pub.
Ah oui, c'est montrer qu'on est respectueux de la loi. C'est maintenant le nouvel argument publicitaire pour Airbnb, qui toutefois se garde bien de dire que dans le même temps, un peu plus de 2 millions d'euros d'amende ont été infligés à des Parisiens qui louaient leurs appartements l'année dernière sans respecter les règles en vigueur. Des amendes qui ont doublé en un an. Quant à la somme de 24 millions, elle ne correspondrait pas à la réalité de l'activité d'Airbnb, notamment à Paris, selon Philippe Laurent, le maire de Sceaux.
Ce n'est pas suffisant. Alors qu'on voit bien que le mode d'hébergement Airbnb s'est quand même considérablement développé.
Et chez les patrons d'hôtels comme Laurent Duc, on dénonce l'absence de transparence du système mis en place par Airbnb.
Nous, dans l'hôtellerie, on doit avoir un registre où on inscrit les noms des personnes, s'il y a des enfants, etc. Ce qu'on fait, et la ville nous le demande, on lui remet nos listes. Airbnb donne un chèque. Donc, quand on parle d'opacité, on est au sommet.
Problème pour le moment, les plateformes comme Airbnb ne risquent qu'une amende de 50 000 euros si elles ne transmettent pas la liste détaillée des nuitées louées. 50 000 euros, ce n'est rien au regard des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par la plateforme rien qu'en France.
Merci beaucoup Philippe Lefebvre. Paris, de son côté, annonce préparer une plainte contre Airbnb selon l'adjoint en charge du logement, le communiste Yann Brossat. 20 000 logements seraient loués toute l'année dans la capitale, alors qu'il y a une limitation à 120 nuitées par an. Le futur patron du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devrait s'appeler Roch-Olivier Maistre. Le président Emmanuel Macron a proposé ce haut fonctionnaire et magistrat à la Cour des comptes. Son portrait et les enjeux de sa nomination, c'est à lire sur franceinter.fr. Et puis, autre proposition de l'Élysée, Marie-Laure Denis pour prendre la tête de la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés. Le champion des librairies 2018, c'est Guillaume Musso, sans surprise. Dans son bilan annuel, le magazine Livre Hebdo dresse le palmarès des meilleures ventes. Musso place son appartement à Paris, édition de poche, en tête. 590 000 exemplaires écoulés. Et puis son dernier roman, La jeune fille et la nuit, s'empare de la troisième marche du podium, 500 000 ventes. Mais pour notre conseil culturel du vendredi, on vous parle d'un autre coup de cœur. L'invité d'honneur du festival Le goût des autres au Havre, Leonardo Padura. Le dernier livre du romancier cubain La transparence du temps vient de paraître. Son personnage fétiche, le policier Mario Condé, est à la retraite. Il s'apprête à fêter ses 60 ans quand l'un de ses camarades de lycée le charge de retrouver, Ilana Mor-Youssef, une mystérieuse statuette de la Vierge Noire.
Leonardo Padura est un homme fidèle. Son personnage fétiche, le lieutenant de police Mario Condé, le suit depuis ses débuts. Il a vieilli en même temps que lui. Au moment où s'ouvre le roman, Mario Condé s'apprête à fêter ses 60 ans. Enfin, fêter est un bien grand mot, car la perspective de l'âge ne l'enchante guère.
Dans mes premiers romans, Mario Condé avait 35 ans. C'était un homme jeune. Il était déjà mélancolique et désenchanté, mais jeune. Maintenant, il est mélancolique, désenchanté et vieux. Et ça fait qu'il regarde le monde qui l'entoure d'un autre point de vue. C'est un point de vue assez semblable au mien, en tant que personne et en tant qu'auteur de romans.
Lorsque Mario Condé revoit Bobby, son ancien camarade de lycée, il retrouve, à sa grande surprise, un homosexuel assumé, rompu aux affaires et adepte d'une étrange religion. Extrait.
J'ai dû cacher toute ma vie que j'étais homo de la tête aux pieds et que je croyais en Dieu et en la Très Sainte Vierge. J'ai passé les 40 premières années de ma vie à faire semblant, en me réprimant, en me torturant, pour qu'on ne foute pas ma vie en l'air, pour que mes parents, pour que vous, mes copains, pour que tout le monde dans cette patrie machiste socialiste croit que j'étais ce que je devais être.
En l'espace de 30 ans, la Havane a bien changé, comme le montrera l'enquête sur les traces de la statuette de la Vierge Noire.
La transparence du temps de Leonardo Padura, c'est aux éditions Métellier.
Merci pour ce conseil, Amélie Perrier. Dans un instant, le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous ? Comment ça va ?
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Une perturbation arrive par l'ouest.
Oui, sur la Bretagne en ce moment et ce soir et demain, elle va progresser vers la Normandie, le nord, le sud-ouest et le massif central. On pourrait avoir un petit peu de neige demain matin sur la Normandie, le Limousin, puis sur la Picardie dans l'après-midi. En matinée, un petit risque de petite chute de neige ou alors de pluie verglaçante sur l'ouest de la région parisienne et le centre, donc soyez prudents sur les routes. Et puis de part et d'autre, on aura des éclaircies. En prime, quelques averses près de l'océan, près de la Côte d'Azur également et vers la Corse. Et puis après les nombreuses gelées du matin, on aura souvent 1 à 8 degrés l'après-midi, un peu plus près de l'océan et de la Méditerranée avec 10 à 13 degrés.
Et dimanche ?
Alors beaucoup de nuages, quelques pluies ou quelques averses, de la neige en montagne, parfois même jusqu'en plaine sur le nord-est. Et la semaine prochaine s'annonce plus hivernale, avec plus de froid et parfois de la neige en plaine.
Nous voilà prévenus. Merci beaucoup Elodie Calac de Météo France.